passer au troisième thème, de la plante ancêtre à la plante compagne, relation. Alors j'hésite beaucoup sur le deuxième terme et usage, je mets maintenant beaucoup de guillemets à usage parce que je trouve que usage, ça fait un peu usager. Et la difficulté justement, c'est ça, c'est de ne pas trouver des termes qui vont subordonner un des deux membres du couple, si je puis parler du couple pour l'homme et la plante au sens général. Hein. Alors c'est la question qu'on avait posée avec Daniela dans ce qu'on vous a envoyé la dernière fois, si pour les ethnobotanistes la plante est une compagne, on fait référence au bouquin de Guettadi, la plante compagne, pour la plante que représente l'être humain, un prédateur, un esclavagiste, un disciple. Alors on verra justement que dans la pensée traditionnelle des peuples sur les plantes, ça c'est passionnant, il y a des anticipations. On ferait bien d'explorer, par exemple, comment les hommes ont-ils découvert, je vous en parlerai tout à l'heure dans ma petite fable suivante, comment les hommes ont-ils découvert les propriétés médicinales des plantes, on pose la question, c'est parce que les plantes leur ont enseigné. Et cette question, les plantes peuvent-elles enseigner aux hommes? Je crois qu'elle doit être prise au sérieux. Alors, bien entendu, le terme enseignement, il faut lui donner un sens large et pas l'anthropomorphisé, mais peut-être que c'est nous qui quelque part, avons utilisé un vocabulaire des plantes en parlant d'enseignement. Et c'est là où l'étude des langues vernaculaires est très importante, parce qu'on trouve, par exemple, dans les langues, l'inverse. On trouve des termes qui sont des termes végétaux qui sont utilisés pour l'homme. Excusez-moi, je suis obsessionnel, mais en maya, cab, la branche, est utilisée pour le bras et la main de l'homme. Mais c'est pas forcément parce qu'il y a de l'anthropomorphisme. C'est probablement l'inverse quand on sait que le premier arbre, c'est une incarnation d'un cosmique. Donc voilà. Donc dans la pensée, en tout cas, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Hein. Alors, plutôt que de parler d'usage ou d'utilisation de la plante, parlons plutôt d'échange, de partage. Voilà. Pour chaque relation à une plante, il y aurait peut-être un mode exploitation et un mode partage. Et donc là, il y a peut-être effectivement une lutte politique à mener. Contre l'exploitation et pour le partage. Mmh. Mmh. Donc, outil, instrument de musique ou de travail, voilà, c'est un partage. Soins, c'est un partage. Nourriture, c'est un partage.
Ah, hein. Outil,
Et donc, l'ethnobotanique, pour moi, a toujours été un petit peu bizarre et très critiquable parce qu'elle ne permet pas de comprendre la plante comme l'ethnologie, elle colonialise. Il y a un ethnocentrisme de la plante, on réduit la plante à son rapport à l'homme. Alors, voilà, je ne vois pas pourquoi on réduit la plante à son rapport. Donc on pouvait parler de planto homo, c'est-à-dire comment la plante utilise l'homme. Voilà. Alors, je vais vous proposer une petite fable décalée autour de la rose, justement. Autour de la rose, et avant Pascal. Alors,
Notre guitariste
alors, favori est parti.
De l'indulgence.
Mais nous allons.
Allez, prenez le volant. Qui prend le volant?
Alors, c'est toi qui prends le volant.
C'est Raphaël qui l'a pris, d'ailleurs. Raphaël, elle est là. C'est toi qui l'as pris.
Oui, c'est ça.
De mémoire de rose, on a vu mourir un jardinier. Si rien qu'une rose ne peut vous suffire, madame, laissez. Le temps s'est tiré sans le maudire. Patientez,
laissez-vous glisser dans le vent léger. Patience, patientez.
Si l'amour s'envole, ne t'en prends qu'à toi. Tu as fui l'école pour le lit de bois. Si ta voile blanche n'est plus que brouillard, te pends pas à la branche dès qu'il fera noir. Te pends pas à la branche dès qu'il fera noir. Car de mémoire de rose, on a vu mourir un jardinier. Si rien qu'une pause ne peut vous suffire, madame, laissez. Le temps s'est tiré sans le maudire. Patientez. Laissez-vous glisser dans le vent léger. Patience, patientez. Garde au fond de toi, tout au fond de toi, un vide, un endroit, derrière les fêtes. le vent du soir, pour bercer tes yeux rêves dès qu'il fera noir, pour bercer tes yeux rêves dès qu'il fera noir. Car donne-moi devant son amour un jardinier, si rien qu'une pause ne peut vous suffire. Madame, laissez le temps s'étirer sans le maudire, patientez, laissez-vous glisser dans le vent léger, patience, patientez.
Alors, moi j'ai fait un contresens magnifique sur cette chanson que j'ai découvert en... Je comprenais. De mémoire de Rose, on a vu mourir un jardinier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des temporalités qui se heurtent et qu'une rose voit mourir un jardinier et que rien n'était stable. Voilà, j'avais pris ça vraiment dans ce sens-là. Et puis après, en regardant qui était à l'origine de cette chanson, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement, c'est Jules Bocard qui est un chanteur qui wallon chante. Qui la chante, mais il ne dit pas que c'est lui qui a écrit les paroles, et en général, quand il l'écrit, il le dit. Et il y a Fontenelle, c'est
ça? Oui, c'est Fontenelle qui a le premier eu cette expression.
De mémoire de rose, on n'a jamais vu. Donc, dans le sens, dans le négatif, une rose n'a jamais vu. Et moi, j'avais senti.
Ou alors parce que la rose est très éphémère, elle n'a pas le temps.
Pas une rose. De mémoire de rose.
Oui.
La mémoire collective des roses.
Et alors, du coup, les mémoires, la mémoire collective, tu vois.
Elle peut dépasser complètement l'âge d'un jardinier, la mémoire collective des roses.
C'est intéressant.
Justement, le on a vu mourir, on donne le jamais.
C'est intéressant.
Nous donne l'ambiguïté. On donne justement toute cette profondeur de la mémoire collective et de la différence entre l'individu et le collectif. Je trouve que c'est intéressant, cette ambiguïté de la formulation.
Juste, je croyais que je devais dire quelque chose sur les usages, mais c'était avant. Tu peux entendre un petit peu la parole. Tu sais, quand on parle
de la
ouais. Non, je m'inquiète pas, mais c'est
parce que je regarde l'heure, mais tu tu vois le faire après. Donc l'idée là, c'est vraiment de nous évader un peu vers la poésie. Donc, effectivement, donc, à partir de la rose, je reviens à rose parce que la rose, c'est quand même pour des raisons multiples et variées la fleur poétique. Par excellence, pas seulement chez vous d'ailleurs, puisque chez les Mayas aussi, c'est la fleur de la chanson, la fleur de la poétique. La rose a le même nom que la fleur de frangipanier. En fait, le yucatan, la rose, c'est la fleur de frangipanier. Et donc, quand il voit arriver la rose, à cause du parfum, à cause probablement d'éléments intimes, l'érotisme, puisque la fleur de frangipanier est associée à l'érotisme, il associe directement la rose à la fleur de frangipanier. Et donc, j'ai écrit une petite fable. Voilà. Pier Paolo Pasolini roule seul sur les autoroutes du néo-capitalisme latin. Il est animé de cette vitalité désespérée qu'il prête à la rose. Cette fleur si belle et si vite fanée que les Mayas ont remarqué entre toutes et à laquelle ils ont donné le nom de la fleur. Donc générique de la fleur, dictée. C'est aussi le nom de la fleur de frangipanier. Les Mayas ont été la chercher dans l'imaginaire occidental, cette fleur de l'érotisme désespéré. Une vitalité désespérée, le drame interne à la fleur si belle et si vite fanée. Cette fleur qui, pour les Mexicains comme pour les Mayas, est à la fois la vie et la mort. La mort qui, comme la vie, la mort qui, plus que la vie, bute sur l'incompréhension des autres. La mort, ce n'est pas ne pas pouvoir se comprendre, mais ne plus pouvoir être compris. Une vitalité désespérée, de Paolo Pasolini. Cette poésie a une forme di rosa. Pasolini lui donne vraiment la forme d'une rose en écrivant ce texte. C'est un peu comme les calligrammes d'Apollinaire, il écrit poésie en forme de rose et ses poèmes ont la forme d'une rose. Évoque pour moi la chanson, donc, de mémoire de rose, on a vu mourir un jardinier, chanson qui a aussi marqué Aimé Michel, dont je reparlerai tout à l'heure à propos des femmes plantes des Métanoïas. En fait, j'ai ouvert par hasard le livre d'Aimé Michel à la Jodorowsky et je suis tombé sur Aimé Michel qui conclut son ouvrage en disant « Nous ne sommes pas seuls ». Nous ignorons la plupart des êtres en devenir qui vivent à nos côtés. Nous avons peut-être plus de vision que la rose. Nous voyons les autres roses. Nous reconstituons l'histoire du jardin. Donc lui, il conclut du côté de l'homme qui a plus de vision que la rose. On lui laisse cette responsabilité. Mais revenons à Julius Bocard, mais aussi un poète de la vitalité désespérée, qui chante aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce poème, c'est une ode à Victor Jara, qui est dédié à un homme de la triste mémoire, qui est à la fois assassin et prix Nobel de la paix, ça arrive de temps en temps, même peut-être assez souvent, Kissinger.
Donc,
Victor Jara, mort sur un stade au Chili, et qui est mort pour avoir décidé de faire plaisir au commandant. Vous connaissez l'histoire, si vous ne connaissez pas, je la rappelle rapidement. Il est dans le stade, là, il y a 6000 personnes, et juste après le coup d'état de Pinochet, voilà, le commandant prend Victor Jara, il lui met les mains sur une souche et il lui coupe les doigts. Il lui dit « Après, chante maintenant, tu es moins fier », dit l'homme après lui avoir tranché les doigts. Et Victor se lève avec les doigts tranchés, et devant les 6000 personnes rassemblées dans le stade, il dit « Nous allons faire plaisir au commandant ». Et il se met à chanter l'hymne de l'unité populaire. Donc de Mémoire de Rose, on avait vu mourir un poète, mort de cette vitalité désespérée que chantait Pier Paolo Pasolini dans sa poésie en forme de rose. De Mémoire de Rose, on a vu mourir un jardinier. Mais existe-t-il au monde un jardinier amoureux de sa rose à en mourir, comme on peut être amoureux de la vie à en mourir? Rose, rose létale, rose qui franchit le fleuve l'été et n'en revient pas. Caminantes del otro barrio, pasen ustedes, por favor. C'est une rose charnelle de douleur, avec cinq roses incarnées. Cancer de rose dans la rose, sur le verre de la mort qui servira de cadre au don furieux de la vie. Al furioso don de la vita. Ainsi, effeuillais-je en vain une rose, la rose pure de la terreur et de la sexualité, autant justement où l'on me demandait d'être le partisan, sans aveu et sans larmes. Pages 185, 195 et 253 pour les amateurs notes de la page. Et je me suis demandé, en pensant à la plante qui fait les yeux émerveillés, c'est-à-dire le peyote, pourquoi pleurent les roses ? Petite digression. Donc là, assez en anthropomorphique sur la rose, mais en même temps,
sérieusement, on fait quoi ?
Nous renvoie à notre. À la manière dont les fleurs peuvent nous influencer. Je trouve que là, c'est aussi une manière de penser fleurs et de penser plantes.
Oui, t'as jeté un coup de froid, là, en fait.
Ça, c'était arrivé aussi dans les conclusions de la plante, parce qu'il y avait un moment fleur qu'on n'a pas pu aborder. Mmh. Et il y avait un des artistes invités qui avait un enfant de 18 mois et sa compagne, ils étaient dehors et quand ils sont arrivés, il y avait l'enfant avec une fleur. C'est pas du tout.
Ah ouais.
Oui, c'est ça.
C'est marrant parce que sur ces cartes, quand il fait ses installations, pour signer ses cartes de programmation, c'est juste lui qui se baisse et qui donne une fleur à un petit enfant, en schématique, tu vois.
Bah, c'est la distribution de l'organe sexuel à tout va. C'est peut-être la seule espèce sur laquelle on a un culte aussi ouvert, ouvert ses organes sexuels, parce que finalement c'est ça,
Oui. L'amour et la mort.
Oui,
c'est
tout à la fois. Oui, mais
la thanésie.
C'est un mot biologique, c'est ça.
Thanésie, oui. Thanaïs. Ça me. Je travaille tout à l'heure, la fleur du champignon. Une fleur, floraison de la communication végétale inter-arbre, hein, puisque la mycorhize, c'est tout ce principe. Hein, développé par Wolben, là, dans son... mais bon, c'est le champignon, et juste par rapport aux graines qui passent par le ventre de l'oiseau ou de l'ours, et aussi ce cas chez les Yakouts de Sibérie, qui utilisent cette fameuse mycorhize du bouleau, le bouleau étant l'arbre cosmique des Yakouts, et la manite tumouche, sa mycorhize, et le psychotrope, utilisé par les chamans pour les visions, pour la transmission, et comment le chaman transmet sa connaissance à ses disciples par l'urine, par son urine, après la prise de la manite tumouche, après l'ingestion de la manite tumouche.
Donc, t'es moqué de envie de pisser, tu vas me sentir gêné. Je ne sais pas si je dois, madame.
La fleur de, communication, fleur de transmission. C'est extraordinaire, ce film.
Ah, il est court.
Ce film.
Un film. Bon, ramène pas des verres, hein.
Ah, si vous voulez appuyer les pierres, vous savez comment faire.
Il a vu ça, c'est du champignon, normalement. Botaniquement parlant.
Non, il n'y a pas de fleur, c'est pas une fleur. C'est pas une fleur.
Ouais.
C'est pas une floraison, mais c'est une excroissance. Ouais. Voilà, c'est que le champignon, c'est la mycorhize, il est souterrain.
Il est sport, on pourrait dire.
Mais c'est son organe sexuel quand même, parce que c'est pour ça que je rebondissais là-dessus, parce que tu me disais cette vénération d'un organe sexuel. Aurielfal impudicus aussi, dans le champignon, qui est quand même extrêmement explicite, quoi. Le champignon, ce qu'on mange, c'est l'organe sexuel du champignon. C'est pas le champignon,
non,
c'est
non,
juste
c'est
son
vrai.
Organe sexuel.
Oui, oui, c'est ça. D'accord.
Voilà.
Oui.
Et d'où le lien aussi avec la transmission par l'urine.
Ouais.
C'est quand même.
Mais est-ce qu'il y a une culture? Il y a pas vraiment.
Dérangeant,
culture,
mais
ça, c'est-à-dire que les gens ne sont pas dérangés lorsqu'ils mangent des champignons. Enfin, la plupart se posent même pas la question.
Ben, ils font pas leur relation, non,
pas
du tout.
Relation,
là, moi, je la fais à travers, parce que je fais
des
corrélations entre.
Il y a des cultures qui la font, justement, la relation.
Avec la question sexuelle du champignon. Je sais pas à ma connaissance.
Là, dans le cas du cactus, c'est pas un champignon, mais c'est un cactus. Hein. Effectivement, là, il y a une relation directe entre manger le peyote et la sexualité, et le côté douloureux de la sexualité. Pourquoi,
oui.
Pourquoi pleurent les roses? C'est un extrait d'un chant du peyote.
Oui.
Hein. Et donc, effectivement, la relation, là, elle est directe.
C'est pas dans la chanson, il n'y avait pas référence aux épines. Non.
Mais je vais
y
réfléchir parce que. Oui, si, si,
je pense qu'il y a des cultures qui.
Enfin, Schuba qui a fait de Helden Rosemann de Schuba, qui en fait a fait un texte fameux du début du XVIIe siècle,
Non.
Le garçon qui brise la rose, en fait, qui menace la rose de la briser pour la cueillir, la rose menace le garçon, si tu me rends, je te pique. Il se pique en la cueillant, il garde un souvenir éternel qui en fait est sûr. Dépassé par le plaisir d'avoir eu la rose. Donc c'est une espèce de. Vous connaissez pas la chanson
non, c'est vrai. Tu fais la chanson.
Ouais. Ah, vive la rose,
chante la vie.
En fait, le champignon n'est pas un végétal en plus.
Ah non.
Non, non.
Mais par contre, ils sont en symbiose.
Ils sont en symbiose.
Total.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tout le monde connaît la question, le principe de la mycorhize?
Ah oui, c'est très important.
C'est
oui, tout le monde connaît ça.
Oui,
ouais, en fait, c'est la manière dont les champignons, le mycélium des champignons, donc leur forme de racine, mais qui est en fait leur corps, qui est divisé en multitudes, comme on l'a vu justement, ramifications.
Ah, bah, écoutez,
ben oui.
C'est danois ou norvégien.
Tu nous fais nous faire une traduction simultanée. Chanter.
Un cœur,
oui,
on comprend pas ce
qu'il dit. J'ai entendu ça par rapport aux mousses, à la mousse, que au final c'était une symbiose entre un champignon et.
Non, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes.
C'est pas les mousses,
c'est les lichens. C'est
les
lichens.
Les
lichens qui sont entre deux mondes,
animal
et végétal. Entre une algue et. Non, le principe du champignon, de la mycorhize, ce qu'on appelle la mycorhize, c'est la symbiose entre les arbres, les racines des arbres et les racines des champignons qui s'entremêlent, où le champignon va fournir à l'arbre des sels minéraux que l'arbre n'a pas les moyens de synthétiser, parce qu'ils sont très très fins. Et en échange, l'arbre va fournir au champignon des sucres. Le champignon n'ayant pas de photosynthèse, ne peut pas synthétiser lui-même.
Okay.
Et dans cet échange, c'était très 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 ancien, hein, au moins 380 millions d'années, enfin à peu près à l'origine des végétales, des arbres terrestres, quoi, des végétales terrestres. A permis aussi plein d'autres transmissions, puisque c'est aperçu qu'en fait, une fois la connexion, ce qu'on appelle entre végétaux les anastomoses, parce qu'il existe aussi des soudures racinaires, les arbres, les tissus se soudent, et du coup, au point de permettre les échanges chimiques. Là, il se passe la même chose entre deux espèces qui n'ont rien à voir.
Il y a les îles aussi, les îles qui sont justement, c'est fin, très fin finalement, c'est les îles qui permettent de faire justement ce lien. Et, ça, et alors ça, ça représente des kilomètres carrés. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de Wood Wide Web, c'est le thème de la biennale là, qu'on lance, ouais. Parce que c'est, ça vient de ça.
C'est un réseau.
C'est un réseau, c'est l'équivalent d'un réseau Internet.
Oui, bien sûr. Mais c'est
un arbre, en fait, si on regarde en dessous, si on regarde son réseau racinaire, c'est absolument gigantesque.
C'est le principe de l'iceberg.
C'est ça, exactement.
Là, c'est le moment de réécouter la conférence de Selma.
Ah oui, oui.
Pour
quelle
se rappeler
conférence?
De ça. Dans les conférences
oui.
De devenir plante,
ah, oui,
c'est
oui,
le
dedans, devenir
de
plante,
ça.
On en a beaucoup parlé.
Vous avez sur la page Facebook de la chaire ou sur le Vimeo, chaire Art et Science.
C'est sur le Facebook
ouais.
Alors, d'autant plus que le lien que l'on peut faire avec notre microbiote, c'est que le lieu même de ces échanges, donc ces anastomoses, ces symbioses racinaires entre le mycélium et les racines de l'arbre, sont des zones que l'on sait extrêmement riches en bactéries, des zones de multiplication bactérienne très très riches dont on ne connaît pas encore l'influence dans ces transmissions de nutriments et d'informations. Et transmissions d'informations qui sont pour l'instant connues essentiellement du point de vue chimique, mais aussi qu'on soupçonne, qu'on mesure plus ou moins, mais qu'on n'explique pas, qu'on ne traduit pas du tout, des points de vue électromagnétiques.
Si je reviens à la rose, je pense que c'est aussi le problème du parfum. C'est-à-dire que la rose, il y a énormément de variétés de roses avec énormément de parfums différents, et la rose, quelque part, elle touche à cette profondeur affective et pulsionnelle et érotique du parfum. Et la rose est probablement l'outil probablement des choses par ses parfums. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement subtil et profond que les poésies et les chansons expriment et que peut-être un jour on va découvrir. C'est-à-dire quel type de communication, si on va parler souvent à la mode, ou quel type d'intelligence la rose développe avec, ce langage olfactif si fin, si varié, si subtil, si léger, si profond.
Il y a ce fameux livre, ce fameux film que vous avez dû voir sur le parfum. C'est un livre qui a été adapté.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, qui est assez fantastique quand même. Vraiment, on est dans le fantastique là.
Mais sachant que je viens d'un des pays qui produisent le plus de roses pour l'exportation, les roses qui sont produites en grande quantité sont sans parfum.
Sans
donc
parfum.
On fait des lamarifications, mais elles ne sont pas des parfums. Elles sont plus belles.
Ah oui, d'accord.
Donc y a, parce qu'il y a comment une correspondance entre l'exubérance olfative et la petitesse de la
pas toujours
visuelle. Mais
parce que moi j'ai plein de roses anciennes chez moi
qui, des roses anciennes,
qui sont très grosses et charnues et qui ont
qui comme ça, tu vois, celles qui sont un peu à la caricature de la rose.
Bien sûr, c'est pas
si tu les pousses à la reproduction, elles vont perdre.
Oui, c'est ça.
Mais quand on parlait de prédation, c'est une des choses qui m'a vraiment touchée. Ce que Michel m'a acheté un alambic, hein, c'est l'énorme prédation que représente la fabrication des huiles essentielles, sont très très à la mode, c'est vraiment cette capture des parfums essentiels. Et moi, au début, j'étais partie là-dedans, et puis alors il y a les bouquins qui paraissent là-dessus, comment soigner de tout avec les huiles essentielles.
C'est vrai que c'est...
Et quand vous regardez... Et en fait, c'était une éleveuse de chèvres à l'école des plantes.
Les
partager en enthousiasme. Elle me dit,
c'est le chef.
Ouais. Elle me dit, moi, j'ai toujours trouvé que c'était vachement trop prédateur par rapport aux plantes. Donc, moi, j'utilise pas d'huile essentielle et j'utilise éventuellement des hydrolats. Et en fait, c'est la première qui m'a dit ça. Et maintenant, tous les gens avec qui j'ai envie d'aller, de travailler, c'est des gens qui n'utilisent pas les huiles essentielles.
Mais c'est la puissance. Parce qu'en fait, c'est comment...
Oui,
tu as besoin d'une énorme quantité.
Exactement.
Oui,
c'est toujours là,
mais pour ce qui est de soin...
Il y a beaucoup de sacrifices par rapport...
Exactement.
Tu peux très bien soigner avec les plantes sans passer par l'huile essentielle.
Tu connais Fadi Chakalpoul.
Après, c'est aussi une question commerciale.
C'est un Indien que j'ai soigné.
Michael qui n'est pas là, il me disait que le commerce d'huile essentielle de rose, c'était comparable à la drogue. Parce qu'au niveau du prix et du volume en Bulgarie où elle est gère, c'est quand ils font des tractations, quoi. Il y a les gardes du corps qui sont là pour vérifier que on s'est pas trompé, et puis parce que c'est des sommes énormes pour des toutes petites quantités. Et moi maintenant j'en utilise presque plus. Et par rapport à notre microbiote, il est vraiment pas habitué, notre
Parce que tu l'ingérais
Non, mais parce que moi, je ne l'ai presque jamais fait, mais moi, j'ai vu plein de bouquins où on disait, mais que...
Parce qu'il y a deux écoles, quand même, en aromathérapie. Effectivement, la française, qui est quand même récupérée par le lobby pharmaceutique.
C'est ça, exact.
Et qui, là, qui prône de l'ingérer.
Ouais.
Alors que l'école anglo-saxonne, c'est transcutané.
Tout à fait.
Uniquement. Inhalation.
C'est compliqué.
Donc, dans des quantités bien inférieures.
Surtout,
bien inférieures.
C'est ça, parce qu'en fait, la peau, c'est un... Je veux dire, on devrait pouvoir manger tout ce qu'on met sur notre peau, hein, parce que finalement, c'est une sorte d'aliment, mais c'est surtout des quantités. Et puis, en tout cas, pour ce qui est de la phytothérapie, c'est surtout de ne pas oublier qu'il y a plein d'autres formes, et les gens ont un peu oublié, quoi. C'était ça par rapport, tu sais, aux questions qu'on disait d'exploitation. Il ne faut pas oublier qu'on a déforesté pour faire des forêts de titri, qui ne sont plus des forêts, qui sont des champs de titri, à cause de la mode de l'huile essentielle de titri, qui est bonne en soi, mais... Il y a plein d'autres choses ici qui peuvent aider.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut tout le temps s'interroger.
C'est ça.
On l'interrompt tout le temps, alors.
Ouais.
Non,
c'était au moment où on parlait des mycorhizes et des choses comme ça.
Non, mais ça, c'est...
Non, je voulais juste mentionner une anecdote que vous connaissez peut-être, que à ma connaissance, le plus grand organisme vivant sur cette
terre,
ah oui.
C'est le champignon. C'est le champignon. Pourrait dire racinaire, en plus.
Voilà. Ouais, c'est un champignon, absolument.
C'est un
kilomètre de diamètre.
Il faut le voir par Google.
Et qui bouffe toutes les racines des arbres.
Laissez-le parler un peu.
Oui, c'est un truc, c'est un champignon qui n'a pas de...
Pas d'organes. Voilà. Il est uniquement.
Il a payé sa place.
Il est souterrain aux États-Unis dans un parc.
Quel est le rapport? Parce que le fait qu'il n'ait pas d'organes fait
qu'il... Non, c'est juste qu'on le voit pas. On ne le voit pas physiquement.
Ah, d'accord.
On le voit par son effet sur les arbres.
Oui, c'est ça. En fait, on le voit.
Par contre,
il n'est pas extérieur.
Comment? Il bouffe. Il se propage.
Il mange les racines
sur des kilomètres.
Il est sous la terre.
Au lieu d'être en symbiose avec les arbres, il les bouffe.
Il est sous la terre. C'est ça.
Et alors, comment on peut le voir?
Comment il s'appelle?
Alors, c'est de l'armillaire. C'est une forme d'armillaire. C'est une espèce d'armillaire.
D'accord. Comment il s'appelle?
Armillaire. C'est le nom de base. Après, il y en a des tonnes. C'est la grande famille.
Le plus vieux, le plus gros, le plus gros.
Ouais. Cela dit, si on le compare au peuplier faux tremble justement des États-Unis, en termes de tonnage, ça se discute parce qu'il a 80 000 ans. Il est estimé à 80 000 ans.
80 000
ans. Il fait près de 100 hectares de surface.
Mais alors, c'est encore
la dimension d'un arbre, quoi. Non, c'est un arbre.
Ah, c'est un arbre.
80 000 ans maintenant, ça y est.
On était sur le houx de Tasmanie, 30 000 ans. Le houx de Tasmanie, 30 000 ans.
Et
apparemment, le peuplier des trembles, on est à 80 000 ans.
Encore 24 ans,
c'est le peuplier de quoi?
Le peuplier tremble de.
Je sais pas où.
Amérique du Nord.
Bon.
C'est pas Californie, je crois.
D'ailleurs, il y a la question de l'immortalité, justement.
Oui, parce qu'il n'y aurait pas de gène de ses naissances.
Pascal, tu voulais donc
l'absence de gène avec l'absence de gène de
ses naissances. Incise, et après on passe au quatrième axe avant de présenter les prochains séminaires.
Toujours par rapport aux usages et quand on parlait de dialogue avec la plante, finalement, je m'aperçois que quand on veut se soigner avec une plante, il y a vraiment un intérêt à se laisser d'abord reprendre par une espèce de communication avec la plante que je ne saurais pas décrire. Et que, en fait, déjà, si c'est une plante qui est autour de toi, elle partage déjà beaucoup parce que tu n'auras pas besoin de... Elle connaît ton biotope et qu'il y a quelque chose de vraiment déjà... de fort de relations. Donc moi j'en suis de plus en plus à estimer que les plantes qui sont autour de toi sont les plus propres à te soigner, et donc c'est d'abord plus respectueux aussi, donc tu vas pas chercher à faire des importer, arracher à des gens, parce qu'on l'a bien vu, toutes les plantes médicinales qui ont été à la mode, ça a voulu dire pour les gens qui l'utilisaient depuis très longtemps qu'ils en ont été dépossédés. Parce qu'il y a eu très vite des grosses pressions. Donc voilà, moi, c'était ça, je m'aperçois de ça en pensant que même toutes les mauvaises herbes qu'on verra demain,
c'est toutes des plantes médicinales. Et puis, comme le disait, alors là, c'est moi qui le dis, les Mayas, la maladie principale, c'est la faim. Et donc, en fait, un jour, Michel disait, mais elle soigne quoi, cette plante? Eh bien, elle soigne la faim. Mais oui, parce que pour des peuples qui ont connu il n'y a pas très longtemps, une fête qu'une plante puisse être mangée, eh bien, c'est vrai que moi, je jubile parce que tu peux faire autour de toi... des vrais festins avec les plantes les plus exactement. S'il y en a une qui en a sauvé plus que le pissenlit, excusez-moi, c'est l'ortie. L'ortie, on sait très bien qu'il y a eu des déportés qui connaissaient c'est une des plantes les plus chargées en minéraux et en protéines. Donc en fait, tu prends trois, tu as un coup de mou dans en randonnée et tu peux manger des jeunes feuilles de fourmis, excusez-moi. Je dis ça parce qu'il y a l'ortie, le fameux truc qui nous pique, c'est l'acide formique, donc c'est pour ça que j'ai... Mais c'est pas très difficile d'apprendre à manger les feuilles de fourmis, vous voyez, j'arrête pas, d'ortie, et ça peut vous sauver d'un moment où on manque d'énergie, voilà.
Et contre les piqûres d'ortie, il y a le plantain.
Et il y a le plantain, absolument.